On commence par votre journal, Anne Faucamberg. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Une nouvelle nuit de violence à Nantes, en dépit de l'appel au calme lancé par la famille du jeune homme tué en début de semaine par un policier. La marche blanche organisée hier soir pour réclamer vérité et justice a réuni 1 millier de personnes. Reportage de Sandrine et Toa Andegue au début de ce journal. Le plan pauvreté du gouvernement a-t-il été vraiment repoussé à cause du mondial de foot? L'entourage du chef de l'État démine depuis hier les déclarations de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Précision à suivre de Stéphane Robert. Il dénonce les fantasmes qui l'entourent au tribunal correctionnel de Paris. Farouk Benabès a été interrogé hier. Cet homme de 32 ans, considéré comme une figure de l'islam radical, est jugé pour avoir animé un site de propagande djihadiste. Compte rendu de Florence Sturm dans un instant. Et puis aux États-Unis, Donald Trump lâche son ministre de l'Environnement, le climato-sceptique Scott Pruitt. Il était englué dans une série de scandales liés à son train de vie. L'invité du jour
aujourd'hui. Oui, Anne Faucamberg, on va recevoir le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière, Pascal Pavageot. Avec lui, on va faire un point sur le conflit social aujourd'hui en France et l'état de notre démocratie sociale.
1 millier de personnes ont donc participé hier en début de soirée à une marche blanche dans le quartier du Breil à Nantes. Les proches du jeune homme abattu par un policier ont réclamé la justice et la vérité. Le policier en question a quant à lui été placé en garde à vue par l'IGPN. Dans la soirée, de nouvelles violences ont eu lieu, des tentatives d'incendie sur un lycée et une station-service. 3 personnes ont été interpellées. Sandrine Eto'o à Andegue.
Les violences se sont déplacées dans des quartiers épargnés jusque-là. À Breil, l'appel au calme de la famille de la victime a été entendu. À l'arrivée de la marche blanche organisée en sa mémoire, des poings se sont levés dans le cortège. Le placement en garde à vue du fonctionnaire de police qui a tiré n'a pas effacé la colère, ni celle des plus jeunes comme Léo et Camille.
On a la colère évidemment, il y a quelqu'un qui est mort. Enfin, j'espère que quelque chose va se passer et que la personne va être sanctionnée parce que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou pas, c'est quelqu'un qui a été tué, quelqu'un qui avait 22 ans, qui avait toute sa vie devant lui et sa vie s'est arrêtée d'un seul coup parce qu'un contrôle a mal tourné.
La justice, elle fera rien, elle a jamais rien fait, elle fera jamais rien. Ouais, Adama Traoré, Ziadebouna, les policiers, ils ont rien eu. À chaque fois, les policiers, ils se font acquitter, à chaque fois.
Ni celle des parents.
Si on dit rien, demain on va terminer. Comme aux États-Unis, eh ben, tous les Noirs ils sont tirés dessus.
Voilà. Jusqu'où ça a dû aller pour qu'ils le mettent en garde à vue ? Il faut qu'il fallait qu'ils cassent tout, brûler tout.
Quand les jeunes se sont révoltés, il faut savoir pourquoi. Parce que voir son copain, un frère devant nous, ils essaient de le ranimer. Il y a de quoi que les enfants ils déchirent leur t-shirt, qu'ils mordent les murs. C'est normal.
Un retour à la normale, c'est ce à quoi aspire la majorité des habitants de ce quartier, populaire et familial.
Reportage de Sandrine Eto'o Andegue. En Seine-et-Marne, un couple de jeunes policiers a été agressé hier soir à Autis, couple de trentenaires qui n'étaient pas en service au moment des faits. Ils ont été frappés par 2 hommes devant leur fillette de 3 ans et sont actuellement à l'hôpital. La piste d'une vengeance serait privilégiée par les enquêteurs. Les agresseurs sont toujours recherchés par la police. Hier soir sur Twitter, Emmanuel Macron a dénoncé, je cite, l'ignominie et la lâcheté de ces 2 voyous. Le plan pauvreté ne sera finalement pas présenté la semaine prochaine comme prévu initialement. Même chose pour le plan santé, dont la présentation est reportée à la rentrée. Il y a 2 jours, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, expliquait ce report par le soutien que le président de la République entend apporter à l'équipe de France de foot. En réalité, ce report serait acté depuis plusieurs semaines. Stéphane Robert.
Mais quelle mouche a bien pu piquer la ministre Agnès Buzyn quand elle a évoqué les matchs de l'équipe de France de foot comme la raison principale du report à la rentrée des plans santé et pauvreté. L'entourage du chef de l'État explique ne pas bien comprendre où elle a été chercher ça. Oui, de fait, le calendrier de la Coupe du Monde était connu à l'avance et ça a pu jouer à la marge, ajoute un conseiller. Mais franchement, il y a bien d'autres considérations beaucoup plus importantes qui ont conduit à cette décision. Premièrement, l'embouteillage des réformes qui s'amoncellent, aussi bien à l'Assemblée nationale et au Sénat, que dans l'écho qu'en donnent les médias. Il y a aussi le fait qu'on est en été et qu'une partie des Français sont déjà en vacances. Et du coup, compte tenu de la résonance dans l'opinion qu'Emmanuel Macron entend donner à ces 2 plans, le moment n'était pas idéalement choisi, mieux vaut la rentrée. Il y a encore le fait que pour la mise en œuvre du plan pauvreté, les collectivités territoriales sont essentielles. Ce sont par exemple les départements qui versent le RSA, le revenu de solidarité active. Et étant donné qu'actuellement les relations sont très tendues avec les collectivités locales, il ne semblait pas opportun de lancer un chantier auquel elles doivent nécessairement être associées. Enfin, c'est en ce moment que se négocient les arbitrages budgétaires pour le projet de loi de finances 2019. Arbitrage là encore essentiel pour la mise en œuvre de ces deux plans, pauvreté et santé, dont la présentation a donc été jugée prématurée.
Explication Stéphane Robert. Le tribunal correctionnel de Paris juge depuis mercredi 4 hommes poursuivis pour association de malfaiteurs. Ils sont soupçonnés d'avoir contribué au site Ansar El Haq, un site vecteur de propagande djihadiste. Parmi eux, Farouk Ben Abbès, considéré comme une figure de l'islamisme radical, même s'il n'a jamais été condamné, si ce n'est pour non-respect d'assignation à résidence. Son interrogatoire hier ne lève d'ailleurs pas tous les mystères, Florence Turme.
Il s'exprime avec des mots choisis, dénonce d'une voix posée les fantasmes qui se sont, dit-il, construits autour de lui. La présidente l'a indiqué en préambule, vous comparaissez pour ce qui vous est reproché pour Ansar El Haq, le reste ne sera pas évoqué. Et lui répète, je regrette énormément de choses, mais je ne veux pas que l'on donne à mes actes une portée qu'ils n'ont pas. On vous a reproché d'avoir publié les 39 moyens pour travailler le djihad et y participer, reprend la magistrate. J'ai traduit le sommaire du livre, explique Farouk Ben Abbès, on me dit qu'à travers une traduction, j'ai essayé de recruter, ce n'est pas vrai, mon intention était informative. Il y a des gamins qui sont partis là-bas, rétorque la présidente. La veille, pour éclairer ce dossier, ces faits qui remontent 8 ans en arrière, elle avait pris le temps de s'arrêter sur le développement d'Internet, le changement fondamental entre la manière de mener le djihad avant et après 2010. Et elle relie la règle numéro 34, énoncée dans le livre diffusé sur le site, « Le djihad électronique, un moyen béni qui nous a grandement avantagés ». Farouk Ben Abbès ne bronche pas, se lance dans un long développement lexical et conclut sur une question de son avocat. Oui, j'ai fait le djihad à Gaza, mais c'était un djihad humanitaire. Aujourd'hui, il dit avoir beaucoup de projets, notamment celui de repartir en Belgique et de travailler dans une association d'aide aux primo-arrivants.
Le compte-rendu d'audience de Florence Sturm. Aux États-Unis, il avait été un farouche partisan du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Le ministre de l'Environnement, Scott Pruitt, est désormais contraint de démissionner. Le président Trump l'a annoncé hier soir, un ministre devenu encombrant car empêtré dans de nombreux scandales, Grégory Phillips.
Il y a 2 soirs, et la vidéo avait fait le tour des médias américains, une mère de famille de Washington était tombée sur Scott Pruitt dans un restaurant de la capitale. Elle avait sommé de démissionner avant qu'il ne soit rattrapé par les scandales. C'est donc chose faite. Il faut dire que le patron de l'Agence américaine de l'environnement faisait depuis plusieurs mois l'objet de 13 enquêtes fédérales, soupçonné de voyager trop souvent en jet privé, d'avoir recruté une armée de gardes du corps autour de lui, de dépenser sans compter les crédits du ministère ou encore de louer pour un prix défiant toute concurrence un bel appartement dans le quartier du Capitole appartenant à un lobbyiste du secteur de l'énergie. Scott Pruitt avait aussi provoqué la fureur des organisations de défense de l'environnement après avoir dit publiquement qu'il ne pensait pas que le réchauffement climatique était lié aux activités humaines. En 1 an et demi à la tête de cette agence, il a d'ailleurs cherché à détricoter une bonne partie de l'héritage environnemental de la précédente administration Obama. Pruitt s'en va donc, il est remplacé par son adjoint qui, lui, avant d'intégrer l'administration, faisait du lobbying en faveur de l'industrie du charbon.
Correspondance à Washington de Grégory Phillips. Cinéaste, réalisateur du monumental Shoah, écrivain, philosophe et journaliste, Claude Lanzmann s'est éteint hier à 92 ans. Claude Lanzmann aura passé plus de 70 ans de sa vie à se battre pour des causes qu'il estimait justes, mais avec parfois des contradictions, Christine Moncla.
L'antisémitisme dont il a souffert dès le lycée a poussé Claude Lanzmann dans la résistance. Et ce sont les jeunesses communistes à l'époque en province qui en étaient l'un des aiguillons. À 18 ans, c'est donc en maquis communiste dans le centre de la France que Lanzmann entame une longue vie de combat politique. Quand bien après la guerre, son chemin croise le couple Sartre-Beauvoir, outre leur amitié et son amour pour la philosophe, il leur emboîte le pas du militantisme anticolonial et s'engage contre l'Algérie française. De cet attachement à l'indépendance des êtres et des peuple, Lanzmann en tirera plus tard une aversion pour toutes les opérations militaires interventionnistes et autres devoirs d'ingérence. En revanche, il eut plus de mal à convaincre de ce qu'il appelait sa fidélité à l'État d'Israël et qui apparaissait pour beaucoup comme un paradoxe. Car dans la pensée de Lanzmann, Israël a été engendré directement par la Shoah et au nom de cette terrible filiation, il défendra sans relâche l'État hébreu et sa politique, notamment à travers son film Tsahal, véritable ode à l'armée israélienne et qui fut largement critiqué par les défenseurs des droits des Palestiniens. Lanzmann restera pourtant toujours considéré comme un homme de gauche, notamment avec la revue des temps modernes fondée par Sartre qu'il dirigea jusqu'à sa mort. Et c'est d'ailleurs dans cette revue qu'il aura écrit ses derniers mots, c'était dans le numéro du mois de juin 2018, un hommage très sensible à une autre figure intellectuelle mais de droite, celle-ci, qui était aussi son ami, Jean d'Ormesson.
Les précisions de Christine Moncla. La météo, elle s'améliore avec de belles éclaircies ce matin sur le nord-ouest. Le ciel sera toutefois encore orageux sur l'est du pays, temps lumineux sur les bords de la Méditerranée et les températures ce matin, 20 à Brest, 21 à Strasbourg et Bordeaux, 22 à Lyon, 24 à Lille et Paris et jusqu'à 27 à Marseille.